Alors, il nous reste un peu de temps pour des questions ou des commentaires. Je vais vous demander de vous présenter au micro si vous avez des questions ou des commentaires. Je vais demander à tout le monde d'être bref quand même parce qu'on arrive à la fin de la journée. Je sais à quel point ils ont été stimulants et fascinants et on pourrait rester ici encore 2 heures, sauf qu'on ne peut pas. Monsieur Stansted, non?
Renova 165, donc je pense que c'est à moi de féliciter le devoir. Dans le devoir, et je m'excuse infiniment, sûrement il y a une quarantaine d'années, il manquait des revenus, c'était pour les copies que je volais dans la boîte du journal au coin de Jean Talon et Christophe Colomb. Je ne sais pas si ça rappelait de ça, il y avait des boîtes métalliques, il y avait des journaux dedans, puis à un moment donné, Jean Drapeau est arrivé dans le décor. Vous avez parlé, Mme Boileau, du fait qu'il y avait finalement les gens qui faisaient du web et puis il y avait ceux qui lisaient des journaux. J'ai travaillé avec Yves Thériault avant son décès. Et Thériault, son rêve, c'était d'écrire des gros livres pour enfants. Et tous les éditeurs disaient, il n'y a pas d'avenir d'un gros livre pour enfants. Naturellement, il n'y a personne qui a jamais acheté un Harry Potter. L'autre chose que j'ai remarqué, je m'excuse infiniment, mais j'en tape une coupe de temps en temps. Il n'y a personne qui tweetait ici. Félicitations.
Personne qui quoi?
Tweetait.
Nobody was tweeting. C'est que tout le monde a été tellement intéressé par ce qui se passait ici. Alors, des commentaires. Jean Paré?
Il y a des questions à plusieurs reprises de deux façons. Devient en aide à la presse, l'aide gouvernementale et les sociétés à but non lucratif. Je vais commencer par les sociétés à but non lucratif. Je choquerai les gens après. Il y a toutes sortes de façons de faire des sociétés à but non lucratif ou presque non lucratif ou pas tout à fait lucratif ou déficitaire. Des coopératives, des ONG, en fait, toutes sortes de sociétés comme ça. Une grande entreprise de presse à but lucratif, comme le Toronto Star, comme McLean Hunter autrefois, Rogers aujourd'hui. Depuis que je suis parti, il y a 10 ans, Rogers a créé plusieurs journaux et magazines. Avec quoi? Avec les profits. C'est-à-dire que les profits d'une entreprise à but lucratif ne sont pas toujours réinvestis dans l'achat d'une usine de papier ou de casseroles antiadhésives et ainsi de suite. Il y a des entreprises de presse qui sont des entreprises de presse. Pour réinvestir, il faut faire des profits ou aller à la banque. Ceux qui sont allés à la banque, c'est eux qui ont des graves ennuis aujourd'hui. Ceux qui se sont fait plaisir en achetant une chaîne de journaux, en payant 3 fois plus cher, un achat endossé, c'est là qu'est le problème. C'est pas dans les journaux eux-mêmes. Ce sont souvent de très bons journaux. Et en tombant dans la dèche, ils ont entraîné avec eux le reste des autres journaux qui existaient. Le Globe and Mail d'aujourd'hui n'est pas le Globe and Mail d'avant le Financial Post. C'est tout à fait évident. Revenons aux entreprises à but non lucratif. Elles ont un très grave problème. Elles sont comme des réserves indiennes. Elles appartiennent à personne, donc incapacité totale de se recapitaliser. Elles ne peuvent pas aller sur le marché avec des actions, elles ne peuvent pas aller à la banque, personne ne veut les endosser, personne ne veut prêter. Qu'est-ce qu'on fait pour se recapitaliser? On va voir la fondation Coutu, la fondation Chagnon. Ça marche peut-être ailleurs. Et ça marche pour l'ancien journal. Ou, puis après ça, pour payer des opérations. Mais s'il faut recapitaliser à un moment donné, si on a besoin de 30 millions pour une raison ou pour une autre valable, c'est absolument impossible pour répondre à des changements technologiques. Et puis, on prend un temps inouï, une énergie inouïe à lutter contre tous ces accidents de parcours parce que l'argent n'arrive pas automatiquement. Alors, j'y crois pas tellement aux sociétés à but non lucratif. Il y en aura quelques-unes, mais il y a 1500 journaux en Amérique, pour ne parler que des quotidiens. C'est pas vrai que ça va s'appliquer partout. L'autre ressource, c'est l'État. Est-ce que l'État devrait intervenir? Mais d'abord, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup intervenu dans le passé. Je mettais des magazines à la poste pour le prix d'une lettre, 3 cents. Alors, c'est beaucoup plus coûteux. Le gouvernement canadien, pendant des années et des années, a eu des tarifs postaux spéciaux, a eu des lois protectionnistes pour empêcher les magazines étrangers de vendre la publicité ici. Et à l'époque de la Fondation, ça a été très bien. Moi, quand j'allais à l'école, le Canada avait 7 millions d'habitants. Imaginez, dans ce désert, il était impossible de faire quoi que ce soit de rentable sans l'aide de l'État. On n'est plus dans cette situation-là. Et ces aides, ce qu'on appelle des aides, ont fini par nuire. On fait des magazines et journaux des espèces d'ateliers protégés. On n'avait plus besoin de s'adapter. On n'avait pas besoin de faire d'efforts financiers. On bénéficiait de conditions extraordinaires. Quand la TPS, la TVQ est arrivée, 15% à l'époque, en un an, on n'a pas pu augmenter nos tarifs d'abonnement de 15%. C'est le gouvernement qui a pris l'augmentation annuelle. Et ils ont fait ça sur 2 années. Ils ne sont pas contentés de le faire sur une année. Une année Québec, une année Ottawa, une année Québec. Après ça, on a enlevé les lois pour protéger nos magazines contre les magazines américains. Pendant 5 ans, on a passé notre temps devant des commissions d'études, des commissions d'enquête, des ministres qui nous faisaient des rapports, dont Jean Charest, entre autres, Gag Turner et d'autres. Au début, ça a été bon. Après, ça n'a pas été bon. Tout à l'heure, quelqu'un proposait d'enlever la TPS-TVQ. Quand je vais au magasin que j'achète le journal, je paye 1 $, il y a 9 cents de taxes. Est-ce que quelqu'un ici pense que je vais vendre un exemplaire de plus parce qu'on sauve 9 sous? Les gens qui n'achètent pas le journal, c'est pour d'autres raisons que celles-là. Après ça, il faudra enlever la taxe sur tel produit, tel autre produit à valeur sociale, et ainsi de suite. Et on va finir par une toute petite base de taxes, mais beaucoup plus élevée. Je ne crois pas à cette formule-là. Par contre, le gouvernement pourrait aider, non pas avec des lois sur la presse et des choses comme ça. Dans mon catéchisme, une loi sur la presse doit comporter un seul article de 4 mots. La presse est libre. Et s'il y a des gens qui abusent, parce qu'il se commet des abus. Il y a des tribunaux, il y a des recours, le conseil de... il y a toutes sortes de choses. Mais des lois sur la presse, comme toutes celles que j'ai vues naître au cours de ma carrière, c'est la mort de l'indépendance, c'est la mort des journaux. Les gens vont se tourner vers autre chose, ils vont se tourner vers l'étranger, c'est bien évident. Alors, pour quelle raison? Je ne suis pas certain que ce qu'on a appelé l'intérêt de la puissance publique, ça sonne bien. Je ne suis pas certain que c'est toujours notre intérêt. Et je ne suis pas certain que c'est souvent notre intérêt. Le plus grand lobby dans une démocratie, c'est le lobby de tous les gens qui sont ce qu'on appelle la puissance publique. Au Québec seulement, on a 500 000 personnes qui vivent de la puissance publique. C'est 1 emploi sur 4. Ils sont recrutés par concours. Ils sont les plus instruits, ils sont intelligents. Ils veulent de la croissance comme tout le monde. Essayer de faire décroître n'importe quel ministère, si inutile soit-il, c'est pas possible. Une fois qu'on les a, c'est comme une cicatrice, c'est une maladie permanente. Alors, j'aime bien tenir l'État at arm's length, et la longueur du bras doit être celle du bras canadien dans l'espace.
Merci beaucoup. Je vais demander...
Et ça vaut pour la Corporation des journalistes.
Ah, j'ai toujours été contre.
Et à chaque fois que le gouvernement a voulu intervenir pour aider la presse, donner des subventions, le même problème s'est posé. D'abord, j'y crois pas parce qu'actuellement, allez donc demander une subvention au gouvernement, que ce soit pour l'orchestre symphonique, pour les universités, pour les écoles, pour n'importe quoi. Il n'y a pas d'argent. Deuxièmement, on arrive avec les journaux, lesquels? Un journal comme The Economist, bien sûr. Le Devoir, pourquoi pas? Le magazine gay du village gay, les députés se mettent à s'énerver. Le journal d'une secte, un nouveau journal qui diffuserait, je ne sais pas moi, l'économie créditiste. Les députés, heureusement, les ministres, sont incapables de choisir où s'arrête et où commence un nouveau journal. Alors, je pense qu'il faut oublier ça n'arrive pas.
Voilà un des problèmes, effectivement. Qu'est-ce qu'un journal? Qui est un journaliste? Domaine où on ne veut pas que l'État prenne le contrôle de la définition. En tout cas, je vais demander aux autres panélistes de nous faire en une minute leur dernière pensée. C'est vraiment très court, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et on va faire dans l'ordre inverse cette fois-ci. Madame Brun.
Merci. Moi, je dirais, pour ce qui est des écoles de journalisme, qui sont évidemment pas le passage obligé pour des journalistes ou pour quiconque veut faire de l'information, moi, ce que je retiens de cette journée, c'est la nécessité plus que jamais d'en faire un laboratoire professionnel. Enfin, c'est le mot que j'avais à l'esprit avant de venir ici ce matin, et puis ça m'a confortée dans cette idée. Un lieu d'expérimentation, de voir aussi les passerelles entre les étudiants et certains journaux qui sont en recherche aussi d'innovation. Je pensais au Mouton Noir, qui est aussi dans notre région, en quelque sorte, là, où nos étudiants pourraient aller faire des stages, non pas d'observation ou d'initiation, mais vraiment d'innovation et d'exploration, et peut-être même les soutenir dans leurs projets rédactionnels. Donc, voilà.
Merci beaucoup, M. Pierre.
Moi, je peux pas m'empêcher de voir ça plus avec un œil plus d'affaires, et donc je trouve que une des formes d'indépendance, c'est de se prendre en main, et c'est une forme. Alors, je sais pas si c'est vers ça que Michel Dumay s'en allait tout à l'heure mais l'entrepreneuriat, le fait de voir ça avec une vision d'affaires, et ça, pas forcément pour. L'entrepreneuriat peut prendre bien des formes, c'est de lancer des nouvelles choses, mais c'est aussi à partir de ce qui existe, de le repositionner ou de faire de l'entrepreneuriat même à l'intérieur de certaines organisations. C'est ce que Jean Paré avait fait au sein de McLean Hunter, mais de voir ça avec une vision effectivement rationnelle et qui est capable de vivre dans l'environnement sans trop dépendre, d'essayer de penser à des modèles d'affaires qui peuvent être pérennes et permettre, mais ça prend du temps aussi.
Merci. Madame Boileau.
Moi, je reprendrai un mot de Bernard Descoteaux qui a ouvert la journée ce matin en disant qu'au devoir, on a compris avec les années qu'il ne faut compter que sur nos propres moyens. Je trouve que c'est crucial dans les modèles d'affaires à développer. Et donc, de ne pas compter, avoir d'espoir du côté de l'État, du côté de grands mécènes ou tout ça, c'est de faire notre petite affaire en s'adaptant à chaque fois. Je voudrais conclure aussi sur une note démocratique. Je trouve qu'il faut aussi savoir pourquoi on est là. Nous, on a eu la chance au devoir d'avoir un fondateur qui avait une vision très claire de ce pourquoi il avait créé un journal. C'était pour un devoir, de faire un devoir civique. Je portais des fois à me dire qu'au fond, le public, je vais savoir l'air grossier, là, au fond, on s'en fout un peu. Ce que je veux dire par là, c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on pense qui est important de faire et non pas essayer de plaire au public. On pense au devoir, nous, qui est important de jouer Claude Lévi-Strauss en une quand il meurt, mais pas l'infidélité de Tiger Woods. Et de toujours se rappeler ça, à pourquoi on existe. Alors, je vous le dis tout de suite, ça fait pas du tout des millions, puis ça fait pas des tirages de 100 000 copies. Ça fait un petit tirage, mais bon, ça fait 100 ans qu'il existe. On peut se croiser les doigts que ça continue encore un peu. Voilà.
Alors, je vais demander au professeur Marc Raboy, que je cherche, mais je sais qu'il est là, le voilà, de venir remercier nos panélistes. Et j'ajoute mes propres remerciements pour un après-midi extraordinaire.
Merci. Rassurez-vous, ça va être vite. Alors, je vais remercier non seulement les panélistes de ce dernier panel, mais tous les gens, les individus, les institutions qui ont participé et collaboré à la réalisation de ce colloque. Alors, mon collègue et ami Florian et moi, nous avons décidé qu'on ne nommerait pas les personnes parce qu'il serait presque criminel si par hasard on en oubliait une. Mais nous remercions les membres du comité des fêtes du centenaire du devoir qui nous ont aidés de maintes façons, allant des relations publiques jusqu'à l'organisation du repas de ce midi. Les membres du comité du programme avec qui nous avons brainstormé, comme on dit, le thème et le contenu de ce colloque pendant plusieurs mois. Les conférenciers, les panélistes, bien sûr, ça va de soi. Les étudiants qui vous ont accueillis à l'entrée aujourd'hui. Les traducteurs, merci, on oublie trop souvent de remercier les traducteurs dans ce genre de réunion. Et enfin, le personnel, je dirais les artisans de nos deux unités respectives, le Centre d'études sur les médias et Médias McGill, des artisans qui ont œuvré dans des conditions à peu près semblables à celles des journalistes du devoir et avec le même enthousiasme. Et vous tous, merci d'être venus et bonne soirée.
Merci beaucoup, hein, sujet. Merci infiniment.